Radio Django. Culture.
Revenons à quelque chose de plus sérieux. Ce soir, Jean-Luc, nous allons évoquer l'histoire de l'animation socioculturelle lausannoise qui a commencé à se développer dans les années 60 déjà.
Oui, en effet, le premier centre est né en 1953 dans le quartier de Bellevaux. Actuellement, la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise, subventionnée largement par la ville de Lausanne, gère 17 centres socioculturels, maisons de quartier, terrains d'aventure, en partenariat avec des associations qui représentent des habitants des quartiers lausannois. L'animation socioculturelle, c'est à améliorer l'environnement local, à favoriser le lien social, à renforcer la solidarité, soutenir l'émergence et le développement de projets portés par des habitants, des collectifs et associations.
Non, effectivement. Et puis, à l'occasion des 20 ans de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise, à cette occasion est née l'idée de construire une série d'entretiens filmés avec certains acteurs du métier, 15 personnalités qui ont marqué l'histoire de l'animation socioculturelle, ont accepté de livrer leur regard sur leur métier et sur son évolution. Leurs témoignages ont été regroupés dans un coffret DVD dont le vernissage aura lieu mardi prochain, le 24 avril, sur le coup des 19h, à la maison de quartier Sougar. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir invité et de recevoir Amina Djanine. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es la réalisatrice de ces entretiens. On va parler de la richesse et de la variété de ces récits de travail, de la manière dont tu as réussi à mettre en place et en valeur tous ces biens, toutes ces perles que tu as pu récolter. Mais tout d'abord, avant de commencer, on écoute peut-être la bande-annonce du coffret de DVD.
Il n'y a jamais eu de compromis sur la définition de ce que c'était que l'animation. Il y a eu presque autant de définitions que de personnes ou de pays.
Mais quelle passion! C'était une période où on avait tout à inventer quand même.
C'est un lieu d'intégration multiple. Et le premier lieu d'intégration, c'est la classe.
Peu importe ce qu'ils font, je regarde des gens qui ont envie de faire quelque chose.
On est là pour permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer.
Être des gentils organisateurs de loisirs, alors qu'à la base, il y a quand même un projet pédagogique.
Une certaine autonomie des équipes d'animation, une certaine liberté, elle reste absolument indispensable.
On a besoin de choses proches. Ça nous rapproche.
On ne trahit pas les gens, on ne fait pas de la politique. On en fait.
L'animation, qu'est-ce qu'elle sera dans 20 ans? Que seront les animateurs de cet endroit? Que sera le comité, en fait, dans 20 ans?
L'animateur, il doit avoir une grande éthique. Si t'es dans la collégialité, ça te demande un travail sur toi-même.
Les gens pouvaient commencer à avoir une pratique de la démocratie réelle.
D'abord, on doit s'adapter constamment aux nouvelles générations qui arrivent.
C'est qu'il n'y a rien à éduquer, mais des richesses à partager.
Alors voilà quelques extraits de ces témoignages. Mais Amina, vous êtes approchée il y a 2 ans par la Fondation pour réaliser cette série d'entretiens. Vous aviez déjà une connaissance du milieu socioculturel, de ce que ça représentait que ce métier d'animateur?
Eh bien, en fait, moi-même, je ne suis pas animatrice socioculturelle, mais il y a 10-11 ans, j'ai commencé à collaborer en tant que réalisatrice indépendante au secteur Polymage de Pôle Sud. Donc, j'y ai développé des ateliers cinéma-vidéo, comme l'écriture documentaire, réalisation et montage. Et en plus, il y a 8 ou 9 ans, nous avons réalisé avec Jean-Luc Rochat, animateur et vidéaste à Pôle Sud, quelques reportages sur l'animation socioculturelle. C'était en fait dans le cadre d'une émission qui s'appelait Quart de ville. Ce travail en fait m'a donné accès aux activités et puis aussi du coup au mouvement de certains centres à Lausanne. Je peux dire que cet univers m'est familier. Je ne le connais pas, je ne suis pas vraiment dedans, mais il m'est familier. Et puis aussi, je tiens à dire que je compte quelques très, très bons amis dans ce milieu. Et en fait, pour l'histoire de l'animation socioculturelle, je prends le parti de laisser Roland Bormans, en fait, pour nous parler d'un bout de l'histoire ou de l'historique lausannois en lien avec l'animation socioculturelle. Il est un des premiers portraits que j'ai réalisés, en fait.
Si on se ramène aux années 60-70, c'est un moment où la jeunesse a donné beaucoup d'inquiétude à une certaine partie de la population. C'est l'époque des blousons noirs. C'est l'époque où, en Angleterre, par exemple, il y avait ces clans, les Mods et les Rockers, qui allaient se massacrer le samedi soir sur les plages à coups de chaînes à vélo. L'une des raisons essentielles qui ont présidé à la création de ces centres, c'était une certaine prise en charge de la jeunesse, qui a jamais eu une violence monstrueuse, mais enfin, moi je me souviens, on a quand même deux, trois fois fait le coup de poing. Il y avait des bandes qui étaient un peu en stand-by sur la Riponne le samedi soir, et puis qui après quelques bières allaient un peu casser de l'animateur dans certains centres socioculturels. Nous, on avait une chaîne entre les trois centres du centre-ville, puisqu'il y avait Carrefour qui se trouvait à l'avenue de l'Université, donc juste de l'autre côté de la place de la Riponne. Carrefour était géré par les Unions chrétiennes de jeunes gens. Il y avait le Club de Midi qui se trouvait, lui, à l'avenue de France et qui était géré par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse, et puis USL Jeunesse, géré par l'Union syndicale de Lausanne. Donc on les voyait débarquer, on se téléphonait les uns les autres, il est arrivé même qu'on boucle un centre pour aller donner un coup de main aux copains. Mais finalement, tout ça, ça a rarement été grave.
Alors Amina, en fait, tes premiers contacts avec la Fondation pour justement les intentions, voir un peu les intentions qu'avaient tes mandataires par rapport à ces entretiens, par rapport à ce film.
Oui, alors en effet, en fait, il y a deux ans, la FASL fêtait ses 20 ans. Et pour cette occasion, un comité constitué du directeur de la FASL et de deux animateurs m'avait contacté pour me proposer en fait, de fabriquer une série d'entretiens avec les principaux acteurs du métier de l'animation. L'idée, c'était de graver un bout de mémoire avec des témoignages vivants qui revisitent les carrières et les actions menées ces dernières 30 années à Lausanne. Donc une liste de personnes m'a été proposée et après je me suis occupée de prendre contact avec chacune de ces personnes.
Amina Janine, pourquoi avoir choisi la formule des entretiens et ce format qui se rapproche avec des plans fixes ?
Absolument. En fait, il était question de construire à la fois une archive, une mémoire et même un outil pédagogique qui servirait par exemple aux étudiants, aux futurs animateurs, socioculturels par exemple. Un outil de réflexion sur la naissance de ce métier et qui a été longtemps, en fait, il faut le dire, sur un terrain d'expérimentation. La meilleure manière pour moi de recueillir justement et avec justesse ces expériences, c'était à travers l'entretien dans lequel en fait, les personnes pouvaient se raconter elles-mêmes de différentes façons. J'ai estimé qu'un plan fixe monté avec plusieurs valeurs de plan pouvait répondre à ces attentes. Et ensuite, c'était aussi pour moi une des meilleures façons de marquer en fait, réellement, exclusivement, des rencontres avec chacune de ces personnes. Et je vous invite encore une fois pour se rendre compte d'un des niveaux de parole en fait, qui ont pu être ouverts lors de ces entretiens, d'écouter en fait, un extrait avec Daisy Eberhardt, animatrice à Granvelle, ensuite au Beauvresse. Elle parle ici de la période entre 1980 et 1994.
C'était une époque de grande liberté, mais aussi, c'est-à-dire on avait une société, je trouvais, enfin, un cadre qui était très fort, c'est-à-dire du point de vue de la société. C'est là qu'il y avait les grandes manifs aussi, et tout ça. Donc on cassait un peu les cadres, et si tu veux, notre rôle, c'était à la fois d'être avec les jeunes et puis de les encadrer dans cette dynamique qui avait aussi de forcer, de sortir du cadre. Alors, on a fait des choses complètement folles. Mais vraiment, aujourd'hui, tu ne peux plus les faire. C'est impossible, il y a trop de règles et de normes. Les jeunes s'appelaient vraiment des jeunes, c'est-à-dire qu'ils avaient plutôt entre 16 et 25 ans. C'était vraiment une période aussi de musique. Là, on avait fait ces projets, justement, de faire la musique pendant 24 heures avec des équipes de jeunes. C'était vraiment une période magnifique du théâtre de rue, pendant les nocturnes, si tu veux, avec les jeunes aussi, des camps à l'étranger, au Danemark, en Grèce. Il y avait un très grand investissement de la part des bénévoles. Encore maintenant, je ne pourrais pas dire que ça a beaucoup changé, mais il est différent en tout cas. Et puis les jeunes, j'entends, c'était aussi un très grand investissement de leur part. Ils étaient très demandeurs, j'entends aussi, de vivre des choses exceptionnelles.
Pourrais-tu préciser le dispositif que tu as mis en place pour recueillir ces témoignages ?
Alors c'est simple, en fait, la démarche technique, elle consistait à se poser dans une discussion à deux, en présence d'une caméra et d'un micro. Au final, seule la personne invitée est visible et entendable. C'est un entretien frontal. Il est ouvert et il tourne autour de quelques propositions que je fais au fur et à mesure de l'entretien. Quand je dis ouvert, ça signifie que je ne cherche pas forcément la réponse didactique, mais une parole personnelle, empirique et même, s'il le faut, analytique ou critique. Les personnes revisitent les points forts de leur carrière. Souvent, ça commence avec leur propre fréquentation des centres de loisirs quand ils étaient adolescents, jusqu'à la retraite parfois. Donc, des décennies plus tard, en passant par, bien sûr, leur choix de faire le métier qu'ils ont choisi de faire. Et je sors de ces entretiens avec environ 2 heures de rush, parfois plus, parfois un petit peu moins. En tout cas, 2 heures, moi, je dirais.
Pour combien de temps de rendu final ?
Pour finalement 26 minutes. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc, il y a du montage, on peut le dire aisément. Et un montage donc, durant lequel je restructure un petit peu d'une certaine manière le propos par chapitre. Et j'ai envie de dire que chaque personne m'inspire différemment selon les niveaux de parole convoqués pendant l'entretien. C'est une démarche qui s'inspire du documentaire de création et qui donne un spatio-temporel aux personnes, mais avec un temps de discussion presque intime, en fait. Mmh.
Voilà. Comment est-ce que s'est opéré le choix des protagonistes pour ces entretiens ?
Le choix des protagonistes, dans mon souvenir, il n'y avait pas le souci de la représentativité, en tout cas. Pour moi, c'était important de faire en tout cas que chaque entretien n'engage que la parole de la personne, sa propre expérience, sa carrière, ses réflexions. Et puis, étant donné que le but n'était pas de construire une histoire exhaustive de l'animation socioculturelle à Lausanne à travers donc des quartiers, par exemple, ou des domaines d'intervention, le choix a été fait sur la base des personnes qui avaient le plus d'années d'expérience en fait dans le métier. D'ailleurs, une partie de ces personnes était déjà à la retraite au moment des tournages.
Et comment avez-vous réussi à aborder au mieux le sujet de l'animation, mais sur le point de vue, la perspective historique ?
Ouais. Eh bien, en fait, quand on s'assoit avec l'idée de revenir sur son expérience d'animateur socioculturel et qu'on prend le temps de le faire, il y a une revisite ponctuée dans le temps, en fait, à travers les années et même à travers les décennies. Parler de soi, en fait, dans l'exercice de son métier il y a 20 ans, inscrit pour moi et grave des éléments dans l'histoire. Ce que je trouve porteur, c'est que cette histoire est contée par les animateurs, en fait, les animateurs et les acteurs eux-mêmes. Les détails, en fait, de leurs petites histoires participent par extension à la grande histoire. Par exemple, demander à Gérard Lebas, animateur au Bergère et puis ensuite à Grand-Veine, de revenir sur la création du grand régional rock et dont il était d'ailleurs l'initiateur, nous plonge dans une perspective du passé et qui a donné le ton aux autres activités qui sont arrivées plus tard. Donc une dialectique des plus évidentes et des plus riches qu'on peut constater au visionnement de tous les entretiens, au final. Quoi.
Bon, puis tous ces entretiens, il y a du contenu. Hein. Le contenu s'est relevé très riche. Hein. Le travail de compilation des données a été monstrueux. Comment est-ce que vous avez choisi de trouver les lignes directrices pour articuler le discours qui vous a permis de situer des domaines d'intervention, d'interaction, etc. Comment ça s'est passé concrètement ?
Alors, ça s'est passé, en fait, d'abord en présentant à l'avance à chaque personne des thématiques larges de discussion. Et après, je laisse la rencontre décider des contenus. Je suis garante de rester sur la ligne générale qui concerne en fait les histoires de l'animation socioculturelle. Et puis, dans ce cadre-là, en fait, on parle d'ailleurs de la décision, par exemple, de faire de l'animation pour chacun et chacune, des expériences marquantes, en fait, dans le parcours professionnel. On parle des points de rupture aussi, parce que, comme on le sait, dans tout métier, il y a des espaces troubles, de remise en question et toutes ces choses. Et il y a aussi une place pour l'analyse, en fait, une chose que je chéris vraiment beaucoup. Ça, dans un souci de laisser des traces conscientisées des expériences vécues. Ensuite, il y a un gros travail, encore une fois, de montage, durant lequel je précise, je chapitre, je coordonne, je crée des liens entre les propos, tout en respectant, ou en tout cas en essayant au plus près, de respecter le flux de parole et l'originalité de chaque personne.
Mmh. Qu'est-ce qui relie tous ces entretiens ? Enfin, au fond, quels sont les éléments forts que vous avez retrouvés dans chaque témoignage ?
Oui, vraiment, sans pour autant embellir ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, mais vraiment, avec toute honnêteté et sincérité, que c'est le plaisir, la passion et l'engagement des gens dans ce métier. J'ai été très touchée et parfois émue par la force d'engagement de ces personnes. C'est vrai, c'est réel. Donc, l'animateur socioculturel est un acteur de changement, certes, au niveau social et même politique, selon les cas. Mais il travaille avec ses idées, ses idéaux, et en phase avec tous les mouvements qui traversent la société. C'est une réalité. Il accueille, c'est sûr, mais il propose aussi. Et puis, j'ai envie de dire qu'une grande humanité a émané de chaque portrait. Toujours des personnes avec des valeurs fortes, une éthique, des savoir-faire vraiment divers et colorés, et puis une intelligence aussi très, très, très vive. Il me semble, dans ce cas, que se raconter au niveau professionnel, c'est se raconter tout court, en fait. Nous passons le plus net de notre vie d'adulte à travailler, donc c'est chargé et aussi passionnant.
Alors, on sait qu'actuellement, par contre, il y a beaucoup d'évaluations de la politique d'animation socioculturelle de la ville de Lausanne. Alors, l'un des objectifs de ces entretiens, c'était, entre autres, de rendre plus visible l'histoire de l'animation dans cette ville et de mettre en évidence le fondement général de toutes les actions menées. Est-ce que vous pensez que, par rapport à ce film, il y a des objectifs justement par rapport à que ça soit une vitrine un peu de ce qui se fait, que les gens comprennent mieux en fait, la réalité de ce métier?
Oui, c'est ça, c'est une question.
Oui, complexe, mais c'est une question qui se pose pas mal ces temps.
Absolument.
Mais qui est remis en cause assez régulièrement.
Oui, je répondrai comme je répondrai, mais j'ai envie de te dire que contribuer en tout cas à une meilleure connaissance du travail mené, oui, c'est certain. Pour peu qu'on décide de se poser dans l'écoute et le visionnement de ces entretiens. Comme je le disais avant, on a accès à des décennies d'expérience, de travail et de réflexion à travers ces racontés. Ce métier tel que je le vois, il est nécessaire à plusieurs niveaux, il intervient à plusieurs niveaux et les aventures professionnelles concrètes décrites dans ces entretiens en témoignent. Que ce soit en réponse à des besoins exprimés par les populations ou par des propositions qui émanent des centres socioculturels ou des maisons de quartier. Par le biais justement d'animateurs et animatrices socioculturelles. Pour moi, les animateurs ont été et sont encore des porteurs de projets culturels, sociaux et parfois politiques. Et j'aimerais qu'on écoute Pierre-Alain Verheyen, directeur de la FASL, récemment parti à la retraite, qui exprime dans l'entretien qui lui est consacré les champs d'intervention de l'animateur. On peut écouter un extrait si vous êtes d'accord.
L'animation socioculturelle, à travers ces différentes actions transversales se posent sur trois piliers. Le champ social, le champ culturel, le champ politique. Dans le champ social, l'animation socioculturelle vise à ce que chacun puisse accéder à ses droits fondamentaux et à l'intégration sociale, à construire, à créer de la solidarité et à lutter contre toute forme d'inégalité. Sur le plan culturel, je dirais que l'animation socioculturelle vise à mettre en lumière les cultures, mais aussi la multiplicité des talents. Il me vient d'ailleurs à l'esprit une formule de Malraux qui disait « Mais finalement, nous sommes tous producteurs de culture. » L'animation, c'est aussi ça. La culture, au sens de l'animation socioculturelle, est avant tout une force émancipatrice. Elle doit viser à ce que chacun puisse développer une éducation critique, une vision critique de la société et des rapports de force qu'il y a au sein de la société. Et j'en viens justement à l'autre champ, puisque je disais qu'il y avait trois champs, c'est le champ politique. Finalement, elle incite les habitants d'être les acteurs de leur quartier, de leur cité. L'animation socioculturelle vise à développer ce qu'on appelle la démocratie participative.
Alors en fait, ce DVD, ce coffret, à qui est-il destiné? C'est un public large ou bien c'est un public de spécialistes? Comment peut-on voir en fait ces entretiens?
Eh bien, moi j'ai envie de dire que ce coffret DVD est destiné à toutes les personnes désireuses en fait, de rencontrer des acteurs et des actrices du métier de l'animation socioculturelle à Lausanne. J'ai envie de dire aussi qu'il pourrait tout à fait être destiné aux étudiants de l'ESP, donc cette école qui forme à l'animation socioculturelle à travers un long cursus, à toutes en fait, les personnes curieuses qui s'intéressent aux récits de travail et de carrière, parce que ce sont de véritables riches et beaux récits de travail et de carrière. J'ai envie de dire aussi qu'il peut servir et qu'il peut s'adresser aux actuels acteurs du métier, et qu'ils soient dans l'exercice de leur fonction ou dans le politique. Donc finalement, il peut s'adresser à tout le monde. J'ai envie d'ajouter que la posture serait de s'installer dans une énergie d'écoute et d'ouverture Et puis de se laisser aller, quoi. Et puis ce qui se passe, c'est que ben, vraiment, il y a quelque chose qui se déploie à l'intérieur de ces entretiens à travers les mots. Et puis ces mots sont parfois marqués par le souvenir, parfois ils sont marqués par l'analyse, parfois par quelque chose de plus anecdotique, ou même parfois par l'analyse. Donc c'est vrai. Pour moi, ce sont, en tout cas, j'ai fait en sorte que ce soit ça, des petits voyages de 26 minutes à l'intérieur, en fait, de carrière professionnelle et personnelle des individus qui ont traversé en fait ce métier.
Je crois que c'est une belle conclusion. On retiendra ces beaux mots, toi, qui nous donnent envie hein, de découvrir et de se rendre compte de la richesse et de la variété des questions autour de l'animation socio-culturelle. Merci beaucoup, Amina Djanine.
Merci à vous.
On peut rappeler encore hein, que la compilation de tous ces entretiens est sur un DVD dont le vernissage aura lieu le mardi 24 avril à 19h à la maison de Cartier-Sougar. Vous êtes toutes et tous, bien sûr, conviés à prendre part à cette fête. On rappelle hein, le DVD, les entretiens personnalités marquantes dans l'histoire de l'animation socio-culturelle lausannoise. C'est le titre que vous avez attribué, Amina. Merci beaucoup.
Oui. Merci encore, merci à vous.
Une belle soirée. Un sujet que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm. C'est un sujet réalisé ce soir par Jean-Luc. Merci.
Merci, Fabien.